Donc ouais, si je faisais le cumul, je pense, de tous les sites dans lesquels j'ai déterré des squelettes, oui, ça fait plusieurs centaines d'individus, ouais.
Vocation, le podcast de l'Université de Genève qui part à la rencontre de ses diplômés pour comprendre leur parcours, leurs doutes, leurs motivations dans un monde du travail en pleine mutation. J'ai la chance d'être en compagnie d'Audrey Bridy, archéologue, anthropologue, qui travaille dans l'entreprise Archéotech. Elle va nous en dire plus, mais avant, je voulais quand même te souhaiter la bienvenue dans ce podcast.
Bon, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Audrey Bridy, j'ai 31 ans.
Ok.
Je suis archéologue, j'ai obtenu mon diplôme sur le tard à l'âge de 28 ans, donc en 2018. Et depuis, j'ai la chance d'avoir trouvé un emploi très rapidement à la sortie de l'université. Et donc, je bosse dans une boîte privée sur le canton de Vaud qui me permet de travailler dans le domaine pour lequel j'ai fait mes études.
Génial. Je me réjouis de te poser des questions parce que quand on m'a dit « Ah voilà, tu vas passer un moment avec une archéologue, anthropologue », je me suis dit « Mais moi, c'est pas mon domaine ». Donc, je me réjouis en fait de passer ce temps-là avec toi. Et d'ailleurs, peut-être même avant ça, avant de parler en détail de ce que c'est l'archéologie, l'anthropologie, au niveau scolaire, c'était quoi ton parcours à toi, en fait ?
Alors, j'ai fait toutes mes études à Genève. Quand j'étais petite, il faut dire que j'avais pas trop de difficultés au niveau des études. Du coup, j'ai toujours, j'ai enchaîné un peu un parcours relativement conventionnel, donc école primaire, cycle d'orientation. Ensuite, j'avais des bonnes notes qui m'ont permis d'aller au collège. À la suite de quoi, j'avais les notes qui me permettaient d'entrer à l'université. À ce moment-là, j'étais un peu dans le flou. Je savais pas trop ce que je voulais faire parce que je dois avouer que l'archéologie, ça m'est venu un peu plus tard. Donc, à la sortie du collège, j'ai d'abord essayé de partir en psychologie. Donc, j'ai fait une année. Où je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, donc je me suis bien ratée la première année, mais au moins j'ai essayé. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de me retourner. C'était à la fin de l'année scolaire où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de direction. Et donc au mois d'août, je me suis demandé ce que je pouvais bien faire. Ce qui m'a toujours plu, c'était le dessin et le domaine artistique. Donc, j'ai voulu m'inscrire à la HEAD. Mais comme le concours d'entrée est seulement au mois de mars, sauf erreur, j'avais une année durant laquelle je devais attendre pour passer ce concours sans avoir la certitude d'être prise. Ce qui fait que je me suis dit, pendant un an, j'ai envie de m'inscrire en lettres pour apprendre l'histoire de l'art. Et donc, c'est de là que... qui est arrivée l'archéologie dans ma vie, parce que en lettres, comme on doit choisir deux options, donc la première, il n'y avait pas de doute, c'était l'histoire de l'art. Et c'est en regardant les branches, donc les différents départements qui étaient proposés, que j'ai été attirée par l'archéologie, parce que j'avoue que jusqu'alors, je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment on devenait archéologue. Et donc voilà, ça a suscité mon intérêt. Et je trouvais ça suffisamment original pour m'inscrire là-dedans.
Mais pourquoi ça a suscité ton intérêt ?
Parce qu'en fait, je pense que je savais pas à quoi m'attendre. Je pense que quand on dit archéologie, généralement, on a des grands clichés qui débarquent, du style Indiana Jones ou Lara Croft.
C'est ce que je me suis dit.
C'est l'aventure. Ouais. Et du coup, je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, je voyais ça comme une année un peu transitoire. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance là-dedans. Et en fait, j'ai tellement croché avec ces cours d'archéologie que du coup, j'ai jamais passé mon exam à la HEAD.
Mais parce qu'en fait, quand tu as choisi l'archéologie parmi plein d'autres possibilités en lettres, c'était le côté fun et un peu vraiment éloigné de... Enfin, je vois pas en fait comment t'as fait ce choix. Tu t'es bien dit, il y a quelque chose qui me parle là-dedans.
Je pense que ça me parlait. Je trouvais qu'il y avait quand même un lien avec l'histoire de l'art, parce qu'on est, pas quand même... on est assez proche de l'histoire de l'art. Je pense que c'est le côté original
Ah ouais, c'est un peu ça sort.
C'était
un peu
hyper impulsif, ouais.
Ah ok, mais ça dément complètement ce que je pensais. Je me suis dit, je pense quand t'étais petit, tu regardais peut-être des documentaires de je sais pas, des pyramides en Égypte.
Non, absolument.
Et puis ça t'était resté dans la tête.
Non, mais c'est ce qu'on, ce qu'on me dit souvent quand on me demande ce que je fais comme job et que je dis archéologue. Ben il y a plein de gens qui me disent ah mais c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit. Et ben moi, je fais partie de l'exception. Parce que non, c'était pas... Ok, je pense que ça me faisait rêver aussi quand j'étais petite, mais non, je voulais faire vétérinaire quand j'étais petite, du coup, rien à voir.
Et à quoi ça ressemblait... Parce que t'as fait ce choix quand même particulier, mm-hmm. mais à quoi ça ressemblait ta vie quand t'étais au collège, et puis quand t'as fait cette année de psycho, enfin, t'étais quel type de personne ou d'étudiante, c'était quoi tes intérêts un peu à ce moment-là?
Je pense que j'ai vraiment toujours aimé le milieu artistique. Je me voyais vraiment là-dedans. Et ouais, je pense que psychologie, c'était clairement pas ma voie, mais je me suis lancée là-dedans parce que j'étais un peu arrivée à la fin du collège sans trop savoir ce que je voulais faire à ce moment-là. Et on m'avait toujours dit, plus tu fais d'études, plus tu vas haut dans tes études, plus tu assures un peu tes arrières pour le futur. Mmh. Donc, je pense que c'est ce qu'on m'a toujours rabâché dans les oreilles quand j'étais petite. Et comme j'avais de la facilité, j'ai continué mes études sans trop me demander en fait ce que je voulais concrètement faire plus tard. Ce qui fait que, je sais pas, c'est difficile de me définir à ces périodes-là, mais...
Est-ce que tu étais plutôt, par exemple, à ce moment-là de ta vie... je sais pas, justement, que t'es une littéraire qui passait ses week-ends à lire, ou justement, t'étais plutôt une exploratrice des montagnes, ou t'aimais se faire du ski, je sais pas.
Je voyageais beaucoup.
Comprendre un peu.
C'est vrai que je pense que tout mon argent de poche passait par les voyages. J'ai fait un voyage humanitaire. J'ai fait plein de pays, c'est vrai, pendant le collège. Après aussi avec mes études d'archéologie, mais c'est vrai que je voyageais beaucoup. Du coup, ça jamais exploré, comme tu dis, je pense, différentes cultures, différents milieux. J'aimais beaucoup tout ce qui était artistique, créatif, et puis tout ce qui sortait peut-être un peu du lot, ouais.
Parce que pour faire le pari de l'archéologie, il faut déjà, j'imagine, avoir un sacré caractère de base, de se dire, je pense là-dedans comme ça en me disant c'est fun.
Ouais, j'avoue, je suis un peu impulsive, je réfléchis. Quand je prends une décision, généralement, je réfléchis pas longtemps. Ça.
Mais tu penses, est-ce que t'as entendu une certaine intuition quand t'as eu l'intuition d'aller en archéologie, ou c'est vraiment.
Mais c'est possible, ouais. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est possible, c'est vrai, parce que j'ai jamais voyagé. Du coup, effectivement, peut-être qu'il y avait ce côté un peu exploratrice qui m'a appelée à travers ça.
D'ailleurs, je rebondis sur ce que t'as dit avant, je trouve que c'est intéressant. Tu disais, on t'a rabâché le fait que. Le plus haut, le mieux, par rapport aux études. Et maintenant, avec un peu de recul, est-ce que tu penses toujours ça, ou tu le vois différemment?
Non, clairement, je le vois différemment. Je pense que à cette époque, effectivement, je pense que j'ai suivi ce modèle parce que c'est ce que j'entendais depuis toute petite, le fait de faire des hautes études qui pourraient m'assurer un avenir glorieux. Mais clairement, je pense que maintenant, si c'était à refaire, je dis pas que je le referais pas, parce que je regrette pas où j'en suis maintenant, parce que j'adore mon job et je suis fière de mon parcours. Mais peut-être que j'aurais fait un apprentissage ou quelque chose de concret. En fait, je me rends compte que j'aime vraiment tout ce qui est pratique. J'aime travailler avec mes mains, j'aime bosser sur le terrain. Et quand c'est trop théorique, des fois, ça me dépasse, quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté psychologie aussi, parce que c'était un milieu très théorique, on va dire. Les études étaient très théoriques, c'était de l'appris par cœur. Et ouais, moi, j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains, de faire vraiment de la pratique pour pouvoir me projeter. Du coup, je pense que si c'était à refaire, peut-être que je ferais un apprentissage pour avoir un emploi plus rapidement et puis pouvoir...
Ok, c'est intéressant. Ouais. Mais après, t'as quand même fait un bachelor qui est quand même très théorique, ou quand même la partie anthropologie, elle était aussi un peu plus dans le manuel.
Ouais, en archéologie, on a quand même beaucoup de pratiques. Je pense que c'est un peu du 50-50. On va avoir de la théorie parce que oui, il faut acquérir des bases, il faut connaître ta chronologie, il faut connaître les différentes cultures et les différentes époques, mais on avait cette chance justement aussi de pouvoir toucher le matériel concrètement. On nous sortait des caisses de mobilier, et puis tu pouvais toucher des os, tu pouvais toucher des céramiques, des pierres taillées. Et ouais, ça m'a parlé aussi. Le fait de pouvoir aussi faire du terrain assez rapidement, de faire des fouilles écoles, donc pouvoir aller apprendre ce que c'est que le métier d'archéologue dès ta première année, je trouvais que ça m'a motivé, je pense, à continuer là-dedans.
Et puis quand tu étais dans ton master, à côté de ça, tu avais des intérêts qui allaient dans ce sens-là, ou par toi-même, je sais pas, tu allais, un musée vers Neuchâtel.
Oui, le Laténium.
Voilà.
Oui.
Tu passais ton temps, tous tes week-ends dans ce musée. Comment c'est un musée de... Pour expliquer.
Alors, le Laténium, c'est un musée...
La parenthèse.
Oui, c'est un musée qui présente... l'archéologie, je dirais, l'archéologie suisse, les trouvailles en tout cas locales. Et oui, t'as de tout comme mobilier. Je conseille vraiment d'aller le visiter si vous avez de l'intérêt pour l'archéologie et l'histoire suisse, parce que clairement c'est très bien fait. Ouais. Il y a du beau matériel. Le musée en soi est hyper beau.
Mais justement, pendant ton bachelor, est-ce que tu étais tellement geek de l'archéologie que tu passais tout ton temps là-bas comme bénévole?
Non. Non, j'avoue que j'aime bien faire la part des choses aussi.
Ah, ok, quand même. Voilà.
En dehors de mon temps libre, non, je fais pas partie de ces gens qui vont dans les musées, qui vont voir tous les sites archéologiques. Je le fais, mais mais j'arrive à décrocher aussi. Non, je pense pas que j'étais une geek à ce moment-là, mais par contre, j'ai participé au max de fouilles possibles pendant les études. Parce que normalement, tu avais en gros un mois obligatoire pour obtenir des crédits, pour valider ton bachelor. Et moi, j'en ai participé à 5-6, je pense. Parce que j'aimais ça, puis j'avais envie d'avoir plus d'expérience et de voir aussi différents terrains, différents milieux. Mais de là à faire ça à 300%, non, quand même, j'arrive à décrocher aussi.
Mais là, c'est intéressant à voir. Tu utilises un vocabulaire que je connais vraiment pas. Moi, ce que j'adore, chaque métier, chaque activité a son vocabulaire. Et toi, tu me parles de mobilier. Ça, c'est un terme qu'on utilise. Le mobilier, c'est...
Ah oui, le mobilier archéologique, ouais.
Alors, pour moi, tu vois, le mobilier, c'est une table, une chaise.
Oui, le matériel.
Toi, c'est plus que ça, en fait, le mobilier.
En fait, ce serait tout ce qu'on sort de... Tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on sort de terre.
Toutes les trouvailles, on appelle ça un mobilier.
Voilà, mobilier ou vestige, ouais.
Même un os, c'est un mobilier.
Oui.
Ok, trop bien.
Ouais, c'est un mobilier.
Je savais pas, mais j'apprends en t'écoutant. Et ouais, donc après, t'as fait ton bachelor, et à la fin de ton bachelor, t'as pris une décision, celle d'aller en master, mais pas dans la même faculté, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, parce que pour le bachelor, j'étais en lettres, et le fait d'avoir suivi histoire de l'art et archéologie préhistorique, ça m'a ouvert les portes de la faculté des sciences. C'est pour ça qu'après, je suis partie en sciences, en archéologie préhistorique, pour me spécialiser. Parce qu'en fait, pendant le bachelor, tu as un aperçu un peu global de tout ce que tu peux trouver comme spécialité dans l'archéologie. Et durant le master, j'ai choisi de me spécialiser dans l'étude du squelette humain. Donc, c'est ça qu'on appelle anthropologie, hein. L'anthropologie biologique, si tu veux. T'as l'anthropologie sociale, et puis là, c'est le côté biologique. Donc, c'est vraiment l'étude du squelette humain. Et c'est durant ces deux années de master que je me suis spécialisée. Donc là, j'ai essayé d'aller suivre des formations. J'ai fait une formation à Bordeaux, notamment, qui est assez réputée en matière d'anthropologie. Je suis partie en semestre à l'Université de Montréal. Là, c'était plus par envie de découvrir aussi un autre milieu universitaire, une autre ambiance, hein, parce que au Canada, c'est quand même c'est un autre une autre approche, on va dire, avec l'université. C'est un milieu quand même beaucoup plus compétitif. Du moins, c'est comment c'est la manière dont je l'ai ressenti. Et ouais, c'est durant ce master que j'ai voulu un peu me faire des expériences variées, on va dire, pour avoir une bonne idée du milieu et pour pouvoir me former en anthropologie.
Mais je trouve ça assez fascinant, parce que quand j'ai vu justement que t'es une spécialiste des squelettes humains, j'ai trouvé pour te dire la vérité, c'est à la fois extraordinaire et à la fois très glauque.
Ouais, c'est un peu glauque, hein. À chaque fois quand je l'ai dit, j'ai l'impression.
Ouais. Et je me suis dit, mais comment d'instinct on peut se dire comme ça, waouh, c'est ce qui m'attire le plus, c'est d'aller trouver des ossements humains.
Oui.
Comment
ouais, bah, je pense que ça m'est venu, bah, justement, en participant à toutes ces fouilles pendant les études. Bah, j'ai été sur différents chantiers dans différents pays, des chantiers bah, qui présentaient différentes époques. Et c'est là que bah, tu sors différents mobiliers. et ouais, en fait, en fouillant un squelette, c'est là que, ouais, que ça m'a procuré le plus d'émotions, je dirais, parce qu'il y a toute cette dimension aussi un peu, bah, tu te référencies à cet individu, et ouais, ça m'a plus touché que de trouver, je sais pas, un vase en céramique ou de trouver une pierre taillée. Il y a un peu une dimension aussi éthique qui va avec, avec ce côté-là. Et puis tout le côté un peu, je dirais, bah, les études après les fouilles, donc tout ce qu'on appelle post-fouille, qu'on peut faire avec un squelette, on va essayer de, en fait, de déterminer qui était cet individu, ou du moins avec le plus de précision possible, parce que des fois on est dans des périodes très anciennes, du coup on va pas pouvoir te sortir le nom et le prénom de l'individu, mais ne serait-ce que d'essayer de donner une identité approximative. Ouais, c'est quelque chose qui m'a plus touchée, je dirais, qu'avec d'autres trouvailles. Donc c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans.
Mais t'aimerais à me décrire un peu les sensations que t'as, toi, quand tout d'un coup t'es en train de trouver du mobilier humain. Enfin, ça se dit comme ça, du mobilier.
Oui, oui, enfin des ossements humains. Ah, des ossements, c'est humains. Vrai que là, dans ce cas-là, mobilier, c'est un peu.
Ok. Non, maintenant j'ai envie de le sortir.
Ben, je sais pas, ouais, c'est une sensation un peu particulière parce que, ben, généralement, je dirais, on fait pas ça par plaisir. On a eu parfois des gens sur ce genre de chantier qui viennent nous dire que quand on est en train de manquer de respect à ces individus parce qu'on les déloge, en fait, ils ont été déposés là pour une raison bien particulière et que nous, on leur manque de respect en les prélevant. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, bah, c'est pas le but, parce que nous, si on est là, bah, c'est pas par pur intérêt, je dirais. Nous, si on est là, c'est pour essayer de sauvegarder ce matériel, parce que dans 2 mois, il y a un immeuble qui va être construit sur ce cimetière, et que du coup, bah, on est là pour préserver les vestiges. Donc, je dirais que quand on trouve un squelette, bah, ça, c'est toujours un peu particulier, parce que on est partagé entre ben chouette, parce que c'est notre spécialisation, et puis on va pouvoir travailler là-dessus, essayer de lui restituer une identité, et en même temps, bah, ça nous fait aussi, je pense, un peu mal, parce qu'on se dit, bah, effectivement, si cet individu a été déposé là, nous, on est en train de le sortir de son dépôt initial, et du coup, ouais, c'est un peu particulier. De trouver un squelette, c'est un peu particulier. Après, c'est une habitude, et je pense que maintenant, j'ai l'habitude, mais c'est pas pour autant que je vais manquer de respect ou autre, quoi. J'essaie toujours quand même de m'assurer que je le fais correctement et ouais.
Il y a des fois où justement les règles éthiques déontologiques par rapport à ce métier, c'est de dire bah en fait on laisse ça ou bon. Non.
Bah quand on tombe sur du mobilier qui est récent, où on se rend compte qu'en fait on n'est pas face à un cas archéologique, mais qu'en fait ça a l'air d'être un cas un peu plus récent. Là, généralement, on fait appel. Ouais, on se demande en fait si c'est à nous de traiter ça ou si j'ai jamais eu le cas moi-même. Hein, mais j'ai déjà eu des collègues qui m'ont dit qu'effectivement il y a des moments où c'est un peu délicat parce qu'on se rend compte que bah là ça fait plus vraiment partie de l'archéologie, ou alors que peut-être que les descendants des individus sont encore sur Terre, et du coup, c'est un peu délicat. Après, bah, je dirais, on a quand même une formation qui fait qu'on est apte à prélever un individu, un peu comme les médecins légistes. Les médecins légistes, ils font ça avec un individu où il a, enfin, qui a encore sa chair et tout ce qui va avec. Nous, on va intervenir sur le terrain un peu comme un médecin légiste, mais pour un squelette. Donc, je dirais, non, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas eu à faire, en tout cas, ce genre de cas jusqu'à présent.
Ok, mais ok. Et puis, en toi et moi, du coup, combien de corps humains t'as déterré en niveau quantité, je me demande. Niveau tableau de chasse.
La très bonne question. Ben, je dirais des centaines.
Ah, des centaines.
Ouais. Parce que quand tu fouilles un cimetière, ben, j'ai fouillé un cimetière l'année passée. On avait déjà environ 70 individus.
Ah ouais.
Il y a 2 ans aussi, environ 60 individus. Donc ouais, si je faisais le cumul, je pense de tous les sites dans lesquels j'ai déterré des squelettes, oui, ça fait plusieurs centaines d'individus, ouais.
Non, c'était question pour t'en poser une autre, c'était de savoir en fait si t'en trouvais souvent ou en fait si ton travail ça consistait beaucoup à fouiller et éventuellement peut-être pour le mieux, peut-être des fois rien trouver si c'est pour construire un immeuble, des fois.
Oui. Oui, bah c'est ça. En fait, j'ai été embauchée en tant qu'archéologue parce que de base j'ai cette formation d'archéologue un peu touche à tout, je dirais. J'ai eu la formation en archéologie préhistorique, mais maintenant concrètement dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on travaille sur des périodes beaucoup plus récentes, donc rien à voir avec la préhistoire. On est plutôt dans des périodes médiévales, donc bah je me suis adaptée. Je dirais que la manière de fouiller elle est la même. En préhistoire, on va plutôt utiliser des petits outils, des petits pinceaux, parce que c'est des choses plus délicates, mais je me suis adaptée et du coup, bah, je touche un peu à tout, je dirais. Et quand il y a du squelette, par contre, comme je suis la seule personne qualifiée en anthropologie dans mon entreprise, bah, c'est moi qui vais avoir la priorité sur ce genre de chantier. Mais du coup, je trouve pas forcément toujours des squelettes. Je peux aller sur des chantiers, d'autres chantiers variés Et puis, effectivement, on ne trouve pas toujours du mobilier non plus.
Parce que c'est ça. Et puis, le travail que tu... Parce que c'est... Il me semble que c'est assez rare, non, de travailler en tant qu'archéologue dans une entreprise privée ou pas tant que ça?
Alors, en Suisse romande, il y a le canton de Vaud qui fait appel à des entreprises privées. Il y a le canton du Valais aussi. Mais sinon, effectivement, on peut avoir des cantons où l'archéologie est cantonale, comme à Genève, exemple. Du coup, c'est l'archéologie cantonale qui s'occupe directement des chantiers.
Parce que vous, dans l'entreprise, vous faites de l'archéologie, mais vous faites... Enfin, il y a vraiment... J'ai vu, c'est impressionnant. Vous faites tellement de choses avec tellement d'outils différents.
Oui, c'est varié. Ouais. Nous, justement, sur le canton de Vaud, on a l'archéologie cantonale qui va mandater... Enfin, qui va faire des appels d'offres, si tu veux, et... les différentes entreprises privées vont se répartir les chantiers. Mais nous, effectivement, chez Archéothèque, eh ben on est à la fois on a ce côté archéo et à la fois on a le côté tech pour tout ce qui est. Ben, ça va être varié. On peut aussi faire des relevés de bâtiments quand on a des architectes, par exemple, qui veulent effectuer des travaux dans un bâtiment. On va leur fournir des relevés et des plans. On va pouvoir faire aussi des visites virtuelles. Donc, c'est vrai que c'est assez varié. Mais après, au sein de l'entreprise, on a un pôle tech, tout ce qui est technologie, et un pôle archéologique.
Ah, voilà.
Donc, moi, j'ai eu la chance de faire aussi des fois des jobs avec le pôle tech. Mais sinon, je reste plutôt en archéologie.
Ouais, ça m'intéressait parce que moi, honnêtement, j'avais cette vieille image aussi de l'archéologue en Égypte et je me disais, maintenant, ils ont des nouveaux outils, peut-être beaucoup plus de technologie qu'il y a 50 ans. Et j'ai vu que l'entreprise dans laquelle tu travailles, il y a énormément d'instruments.
Oui.
Et je me demandais comment, en fait, c'était, avec quels outils, en fait, tu travaillais au quotidien.
Oui, non, bah, effectivement, t'as raison parce que, du côté de l'enregistrement des données, ça a quand même passablement évolué ces derniers temps. Et donc, nous, on va utiliser tout ce qui est drone, par exemple, pour faire des relevés. Tout ce qui est photogrammétrie, hein. Je sais pas si ça te parle, c'est de la photo en 3D.
La photo en 3D, ça me parle.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on va prendre, en fait, un objet ou une surface, mais sous différents angles qui va nous permettre ensuite de modéliser un rendu en 3D. Mmh. Mais ça, on peut le faire avec un appareil photo ou avec des drones. On va avoir aussi des lasers qui vont nous permettre de prendre des mesures sur le terrain. Alors qu'avant, on effectuait ça avec une lunette de chantier, mais à l'ancienne, avec des doubles mètres. Donc ouais, effectivement, ça a évolué. Et puis, dans la boîte dans laquelle je suis, ils mettent l'accent sur tout ce qui est tech. Donc, on a cette chance de pouvoir gagner du temps sur le terrain grâce à ça.
Génial. Ouais. Et puis du coup, ton quotidien, il est plutôt sur le terrain ou plutôt au bureau? J'ai de la peine à m'imaginer un peu.
Oui, bah c'est très variable. Ça dépend aussi des saisons, parce que les chantiers généralement, bah ils se font à la belle saison quand il fait pas trop moche. Donc généralement, en hiver, on va avoir une période plus tranquille au niveau des chantiers, et donc ça va nous permettre de travailler au bureau. Pour la rédaction des rapports, parce que chaque fin d'intervention, on doit rédiger un rapport pour raconter ce qu'on a fait lors du chantier. Et ensuite, je dirais dès mars, avril, là c'est la reprise des chantiers. Généralement, il y a tout qui arrive en même temps, donc c'est un peu le rush. Mais le quotidien, ouais, il est assez variable en fait. Généralement, on est une équipe de 4 archéologues dans l'entreprise. Des fois, on a des extras qui viennent nous donner des coups de main, mais on s'alterne en fait sur les chantiers. On essaye de se les répartir au mieux. Et du coup, on s'alterne, on se file des coups de main à gauche, à droite. Je dirais qu'il n'y a jamais deux jours identiques. Il y a des jours où tu sais pas où tu vas finir parce qu'on t'appelle au milieu de la journée pour aller sur un chantier. Mais ouais, voilà.
Mais c'est un métier... est-ce que tu es souvent seule ou quand même il y a un vrai travail d'équipe?
C'est assez variable. On a des... En fait, pour les gros chantiers qui nécessitent du monde, là, oui, on est en équipe. Pour la mise en place des chantiers aussi, généralement, on se donne des coups de main parce qu'on doit amener du matériel sur place ou on doit un peu installer le chantier. Donc oui, là, on se donne des coups de main. Mais sinon, comme ma spécialisation... En anthropologie, je suis la seule à l'avoir dans cette boîte. J'ai aussi des périodes où je vais travailler que sur les squelettes pendant 1-2 mois. Et donc, je suis seule dans un local. Et je fais mon travail de mon côté, on va dire. Pour tout ce qui est chantier, généralement, on est quand même plusieurs.
Est-ce que c'est... vu que tu es sur différents chantiers, tu as pas le travail dans le bureau, c'est un métier stressant ou en fait très zen, où on y va, on est sur le site des fouilles?
Non, je pense que c'est un métier stressant. Après, je me laisse rarement gagner par le stress. J'arrive à faire la part des choses, mais oui, c'est un métier stressant parce qu'il faut que ça suive. Et généralement, on a aussi la pression qui vient d'un peu plus haut, on va dire, quand on arrive sur un chantier et qu'on est là pour, en quelque sorte, freiner le chantier parce qu'il y a des vestiges et qu'on doit annoncer ça à l'ingénieur ou à l'architecte. Forcément, il va pas être très content de nous recevoir parce que pour lui, ça annonce des retards de chantier, ça annonce des frais, des coûts, etc. Et du coup, on se doit d'être actif sur le terrain et de faire le travail du mieux possible, mais aussi le plus rapide possible parce qu'on a la pression, on a les machines qui arrivent derrière nous et voilà, on peut pas...
Mais vous, concrètement, justement, tu parles des machines, mais vu que vous devez déterrer des choses,
oui,
vous devez quand même à un moment, vous, utiliser des machines pour enlever de la terre, des choses comme
non,
ça.
Non, alors là, dans ces cas-là, on a l'aide généralement des ouvriers qui sont sur le chantier. Donc les entreprises nous mettent à disposition des ouvriers avec leur pelle mécanique. C'est pas nous qui allons.
Mais comment ils savent de dire on va enlever de la terre jusqu'à un tel stade et puis après.
Parce que nous en fait c'est ce qu'on appelle un suivi de creuse et du coup on est en collaboration avec le machiniste et donc on lui dit ok tu peux y aller ou là stop parce qu'il y a quelque chose. Donc en fait c'est une collaboration qu'on a avec eux Oui, nous permettent de gagner du temps, clairement. Parce que des fois, creuser des tranchées de 30 mètres de long, bah, je pense que ça nous prendrait à la main des jours et des jours, alors que eux, ils font ça en une journée. Après, ben, effectivement, ça implique aussi qu'il y a un risque pour les vestiges, mais il faut faire, ouais, la part des choses.
Donc, ça arrive, en fait, des fois de, j'imagine, il y a une zone, en fait, de risque.
Oui.
Et puis, des fois, en fait, où ça casse.
Ah oui, clairement. Des choses. Ça arrive toujours. Bah, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des choses. C'est généralement quand c'est un peu trop tard, mais.
Ah, ok, c'est, je me disais.
Mais au moins, on les a vus.
Parce que souvent, même, vous trouvez rien, en fait, des fois.
Oui, des fois, on n'en trouve rien. Mais le rien, c'est aussi une info, tu vois, parce que quand on nous demande d'aller suivre un chantier pour savoir s'il y a quelque chose, parce que généralement, c'est sur une zone archéologique, ça fonctionne comme ça, en fait, les cantons, ils ont des zones archéologiques dans lesquelles il y a potentiellement des choses qui risquent d'être trouvées parce qu'il y a déjà eu des sites à ces endroits. Et donc, quand on est envoyé sur un chantier, c'est généralement qu'on est en zone archéologique.
Mmh.
Donc, qu'il y a potentiellement quelque chose, mais qu'il y a potentiellement rien aussi. Et le rien, bah, ça reste une info. On pourra dire, bah voilà, nous, on était là, ce jour-là, et il y avait rien sur 2 mètres de profondeur à cet endroit, mais au moins, bah, on sait qu'il y avait rien.
Donc, pour cartographier, en fait.
Exact.
Même les futures fouilles.
Oui.
Mais ça, vous collaborez, du coup, avec l'État pour après leur donner aussi des données, et puis.
Oui. Bah, comme c'est eux qui font les appels d'offres.
Mmh.
Nous, concrètement, on travaille pour eux, c'est à eux qu'on va délivrer un rapport et. Ouais.
Ok. Ouais, je me demandais, c'est peut-être une petite parenthèse, mais est-ce que tu as une anecdote marrante avec un squelette? Je me suis dit, le squelette, c'est aussi tellement symbolique, je trouve. Je me demandais si toi, tu avais vécu quelque chose de particulièrement marrant, pas en fouillant, en trouvant un squelette ou en étudiant ensuite son identité. D'où il provenait ou...
Une anecdote marrante.
Ou juste originale.
Non, écoute, quand je réfléchis, parce que j'en ai vu passer. Non. Marrant, non, bah, je sais pas.
Non, mais peut-être que t'as pas une anecdote marrante parce que peut-être c'est peut-être, ouais, pas, non, c'est peut-être pas là où on va trouver les choses marrantes. Hein.
Ouais, mais peut-être, c'est ça. C'est peut-être le côté glauque. Non, je sais pas.
Moi, je me disais peut-être que tu retrouvais l'identité peut-être d'un squelette, puis en fait, c'était une personne connue il y a 300
ans. Non, alors ça, pas encore. Non, malheureusement, pas encore.
C'est sur le Michael Jackson d'il y a 800 ans.
Non, alors j'ai pas eu. Non. Anecdote marrante, non, là ça me vient pas.
Mais tu peux vraiment trouver des infos. Quand tu dis des infos en fait sur les individus, c'est plutôt des infos de peut-être voilà, le sexe, peut-être l'âge.
Exact.
S'il n'y a pas trop le côté. Ce qu'il faisait dans sa vie, tu sais pas trop.
Non.
Ah oui, c'est peut-être pour ça aussi que moi je.
C'est ça.
Ouais. Dans ma tête, c'est.
Non, non, effectivement, moi ce que je vais essayer de déterminer ben, après les fouilles, ça va être, ben, comme tu l'as dit, déterminer le sexe de l'individu, l'âge. La stature, si c'est un adulte, on peut lui déterminer une stature, essayer de voir un peu faire une sorte de bilan sanitaire un peu, voir s'il était en bonne santé ou pas. Après voilà, tu vois, si j'arrive déjà à faire ça, c'est le max.
Mmh. Ah ouais, donc,
c'est déjà
voilà.
Bien.
Ok, ouais, je pensais à beaucoup.
Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça, parce que j'ai pas eu des périodes trop récentes.
Peut-être des squelettes qui ont un crâne qui a plus de dents que la moyenne, des trucs comme ça.
Bah, j'ai eu un squelette où j'ai pas retrouvé ses fémurs. Mais bon, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'imagine que ça devait être une tranchée ou un truc qui a dû lui passer à travers à un moment donné. Mais après, ouais, effectivement. Ça m'a intriguée sur le moment. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne trouve pas les fémurs? Ouais.
Parce que après, le travail, Quand tu reviens avec toutes ces données, quand tu reviens au bureau,
mm-hmm.
Comment tu traites ces données? Est-ce que c'est un travail aussi d'équipe ou tu croises ça peut-être avec d'autres personnes?
Alors oui, bah moi de mon côté je travaille toute seule, mais c'est vrai que comme j'ai fait des études à l'Uni de Genève en me spécialisant là-dedans, on était environ à cette époque. 6 ou 7 personnes à se former là-dedans, ce qui fait que, bah, forcément, on a passé 2 ans de notre vie ensemble, tous les jours quasi. On a fait des fouilles ensemble, on a bossé ensemble. Ce qui fait que je me suis créé un réseau. Je me suis fait un carnet d'adresses. Et puis, on avait chacune, parce qu'on était que des filles, on avait chacune une spécialisation bien précise. Ce qui fait que je sais que maintenant, lors d'une étude, si je vois un truc qui m'interpelle, ça me fait penser à telle personne. Et donc, je sais que je peux me retourner vers cette personne pour lui poser des questions. C'est vrai que là, pour cet aspect-là, c'est chouette d'avoir pu me former en parallèle à d'autres personnes dans des spécialisations qui nous sont propres, mais du coup qui permettent de pouvoir échanger puis d'avoir un réseau.
Même si elles sont en fait dans d'autres entreprises, tu les appelles.
Ah oui, clairement, ouais. On est une team.
Ah mais c'est trop bien.
On n'hésite pas, ouais, à se solliciter.
C'est chouette, ça.
Ouais.
Et justement, je me demandais. Quand t'as terminé tes études, il y avait avec toutes les autres étudiantes qui étaient avec toi, tout le monde a trouvé du travail facilement. Toi, t'as trouvé du travail d'un coup ou comment ça s'est passé?
Alors ouais, moi j'ai trouvé rapidement. En fait, moi j'ai pas hésité à faire des candidatures spontanées. Je pense à l'ensemble des boîtes privées, l'ensemble des archéologies cantonales de Suisse romande. Donc j'ai vraiment envoyé CV, lettre de motivation partout.
C'était beaucoup, je me rends pas compte, c'est beaucoup d'entreprises, beaucoup de...
Je dirais que ça devait être une dizaine de postulations spontanées. Mais tout le monde m'a répondu, sauf mon entreprise, mais tout le monde a pris au moins le temps de me répondre pour me dire on n'a pas de job pour toi pour le moment, mais on garde ta candidature.
Sauf ton entreprise qui t'a pas du tout répondu.
Sauf mon entreprise qui m'a répondu d'un coup.
Ah, d'un coup.
Donc oui, non. Sur les 10 entreprises environ, je pense que j'ai reçu 9 réponses négatives et une positive, qui me disait, ok, on est motivé à te rencontrer puis à en savoir un peu plus. Et du coup, ça s'est fait hyper rapidement.
Incroyable.
Je pense que j'ai eu mon master en septembre, j'ai pas hésité à postuler direct. et en janvier, je commençais. Donc ouais, ça s'est fait rapidement. Et après,
Et tes camarades de classe aussi ont trouvé facilement comme ça ou pas?
Pas toutes. Que je réfléchisse. Non, pas tout le monde. Il y a, sauf erreur, 2 ou 3 personnes qui sont aussi sensiblement réorientées juste après. Donc j'imagine que... C'est parce qu'ils avaient eu des refus ou autres, mais sinon, ouais, on était quand même déjà quelques personnes à avoir travaillé dans le milieu archéologique pendant nos études, ce qui fait que à partir du moment où elles ont obtenu leur master, elles ont continué leur job dans ces entreprises.
Mais parce que quand t'as fini ton master, pour toi, c'était clair, tu voulais directement travailler, c'était ça ta volonté?
Non. Ah. J'ai hésité à poursuivre sur un doctorat. Ça m'a trotté dans la tête et en fait, j'arrivais pas à trouver, je pense, un sujet qui me motivait suffisamment pour me lancer là-dedans pendant quelques années. Je pense que j'avais envie de faire vraiment de la pratique et d'aller sur le terrain. Et peut-être aussi de m'éloigner un peu des études. Du moins pour un certain temps. Je me suis dit peut-être qu'un doctorat, un jour, j'aurai une inspiration, j'aurai vraiment un sujet qui me tient à cœur, que j'aurai envie de développer. Mais là, tout de suite, en sortant du master, non, j'avais envie de faire un petit break avec les études et puis de rentrer dans le milieu actif.
Et tu te souviens, toi, des entretiens justement avec l'entreprise dans laquelle tu travailles? C'était facile? C'était des questions pièges?
Oui.
Ou tu stressais ou c'était en fait très fluide et... Tout a été simple?
Non. Étonnamment, j'ai pas trop stressé. Par contre, je m'étais dit, c'est la première fois, parce que j'en ai eu des jobs étudiants, je pense, depuis l'âge de 15-16 ans, je bossais à côté de mes études. Donc, j'en ai eu des jobs, j'en ai eu des entretiens. Et là, je me disais, c'est le premier entretien où vraiment c'est pour un job qui me tient à cœur, c'est dans mon domaine. Et étonnamment, j'ai pas stressé. Et c'était vraiment un entretien, très relax maintenant quand j'y pense, parce que c'était plus une discussion, il y avait pas de questions pièges, il y avait pas de moments angoissants ou d'interrogatoires sur mon CV, quoi. C'était vraiment plus une discussion sur mon parcours, mais pas de stress.
Pas de stress, c'était plutôt simple.
Ouais.
Et quand tu faisais ton master, c'était ça ton job de rêve? Tu le voyais vraiment comme ça? Ou t'avais d'autres critères avant? Tu t'imaginais autre chose? Souvent, quand on est en études, on s'imagine aller là ou là, puis tout d'un coup, il y a l'opportunité qui nous vient dessus, puis on se dit, ah, mais en fait, ouais, chouette, j'y vais. Mais est-ce que c'était ça? Tu pensais à ça?
J'avoue que j'avais... Ouais, je sais pas trop dans quel milieu je me voyais. Enfin, je suis en train de me dire, je pense que selon moi, le métier d'anthropologue était difficile d'accès parce qu'on nous répète pendant nos études que on est beaucoup, qu'il va y avoir peu de débouchés et que du coup, on sera en compétition avec les gens avec qui ont fait nos études. Du coup, je savais pas trop, en fait. Je savais que j'allais essayer de postuler un peu partout. J'avoue que l'entreprise dans laquelle j'étais embauchée, c'était mon coup de cœur. Et donc, j'ai eu de la chance. J'ai aussi postulé pour l'archéologie cantonale genevoise parce que je pense que c'est aussi un peu par facilité de me dire, travailler dans son canton, c'est quand même... une chance au niveau des trajets et un certain confort de vie, mais je sais pas trop où je me voyais, en fait. Non, je savais que j'avais envie de bosser là-dedans, mais c'était un peu flou, effectivement.
Et puis si tu voyais là devant toi le Audrey mais qui a 18 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil, justement? Toi qui es moins dans le flou par rapport à elle.
Oui. Je lui dirais de suivre son intuition, dans le fond. Parce que c'est vraiment... une intuition que j'ai eue, peut-être, ou de suivre ses impulsivités aussi. ses impulsions. De se faire confiance, je pense. Parce que, dans le fond, je savais pas trop... où j'allais en sortant du collège, et puis je me suis fait confiance, et j'ai fait mes expériences, j'ai jamais regretté mes choix, même si, j'ai perdu une année, en allant en psychologie, je le prends comme une expérience, et je lui dirais de s'écouter, et puis de se faire confiance.
Est-ce que tu dis, peut-être, c'est pas une année de perdu, la psychologie, mais est-ce que toi, même en une année de psycho, il y a des choses que tu utilises, en fait, peut-être au quotidien, peut-être, je sais pas, pour travailler avec ton équipe, choses comme ça. Est-ce que ça te sert quand même dans ta vie, même si t'as pas eu le diplôme au final?
Non, je dirais que non.
Ah ouais? Ok, c'est intéressant.
Ouais, pour être honnête.
Non, mais c'est bien, je préfère que tu sois honnête. Hein.
Ouais, c'était très théorique, peut-être trop théorique. Pour moi, et du coup, j'ai décroché assez rapidement. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout de la première année, de passer les examens, mais ouais, j'avoue que je pense que j'ai fait un blackout après, okay. J'ai rien retenu.
Puis tu disais aussi, par rapport à la suite, le marché de l'emploi, puis tu disais, on disait continuellement, en fait, que ça allait être compliqué, qu'il y avait beaucoup de concurrence. Mm-hmm. Comment toi, tu le vivais, ça, quand tu étais étudiante, cette concurrence? Ou la future concurrence qu'on t'annonçait?
J'aimais pas du tout ça, parce que je suis pas du tout... J'aime pas être dans la compétition. C'est quelque chose qui m'oppresse un peu, de savoir que je suis en compétition, ou que je dois constamment me justifier, ou autre. C'est quelque chose qui me déplaît fortement. Mais je pense que ça m'a motivée, peut-être, à me spécialiser vraiment dans un domaine assez pointu, tu vois. Je me suis spécialisée en anthropologie, mais après, j'ai voulu me spécialiser dans la dentition humaine, donc aller encore dans un truc encore plus pointu. Ce qui fait que...
Ah, donc quand je parlais de dents avant, c'était une bonne intuition.
Oui. Okay. du coup, le fait d'avoir cette hyper spécialisation, si tu veux, ça permettait de me démarquer des autres anthropologues. Et on a toutes eu ces hyper spécialisations dans nos domaines particuliers, ce qui fait que le fait de savoir qu'on était en compétition, ben peut-être que ça m'a vraiment poussé à me spécialiser, puis à ça m'a motivé aussi justement en sortant des études à postuler partout pour essayer de de trouver un emploi à tout prix. Mais après, ça a jamais été de la compétition non plus malsaine. Je dirais, on est quand même une bande de potes à la base, et du coup, pour l'instant, on s'est encore jamais tiré dans les jambes. Donc...
Bah, tant mieux.
Oui.
Et c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé plus en détail. Plusieurs choses. La première, c'est que tu m'as dit aussi, voilà, j'ai eu mon diplôme un peu plus tard, à l'âge de 28 ans. Mm-hmm. C'était un stress pour toi, t'as d'être diplômé plus tard peut-être que la moyenne, ou comment tu le voyais ça?
Non, je dirais pas que c'était un stress. Après, c'est vrai que j'avais déjà un appartement, enfin j'avais déjà des charges à payer diverses et variées, et du coup c'était peut-être le confort financier qui me stressait plus qu'autre chose. C'est pas tant d'avoir 28 ans, mais c'est plus de me dire, bah voilà, je dois assumer aussi. Donc, en fait, je dois avoir un job à côté de mes études, qui est pas forcément en lien avec les études. Et du coup, ça, je pense que ça me stressait peut-être plus, pour le côté, on va dire, confort de vie financier. Mais en soi, de finir ses études à 28 ans, je trouve que c'est pas, enfin, de nos jours, j'ai l'impression que quand tu t'engages dans une carrière universitaire, tu finis généralement dans ces eaux-là, donc ouais.
Ah, puis après, 3 ans de plus, 4 ans de plus.
C'est ça.
Ou en moins, finalement.
Oui.
Et les différentes expériences académiques que tu as eues avant, par exemple en psycho, puis après tu voulais aller à la aide, tu me disais.
Oui.
J'imagine que c'était vraiment une période de ta vie où tu as eu beaucoup de remises en question.
Clairement.
Et tu peux... Moi, ça m'intéresse comment tu l'as vécu, en fait, ces moments de remise en question C'était comment dans ta tête à ce moment-là?
Bah, je pense que je partais dans tous les sens. j'étais vraiment partagée par le fait de me dire va à l'uni parce que t'as fait ton collège dans ce but-là au fond. Donc voilà, j'ai commencé en psycho, puis après je me suis dit non, mais finalement une carrière artistique c'est peut-être pas si mal. Et je pense que je partais un peu dans tous les sens parce que je savais pas ce vers quoi je voulais me diriger. Peut-être une grosse période de flou, ouais. Bah, que je vivais quand même relativement assez bien. Mais
c'est fou que ce que je vois, chose que je valorise aussi beaucoup personnellement, c'est que c'est en te perdant que tu t'es trouvé.
Enfin, ouais, c'est peut-être ça, c'est vrai.
Parce que je vois que t'as fait l'année psycho, puis après tu m'as dit, ouais, je vais faire les examens de la aide, mais une année après.
Oui.
Puis tu t'es dit, bon, en attendant, je fais lettres, alors que t'aurais pu peut-être même partir faire un voyage.
Ouais.
Et je fais lettres, je sais pas pour quelle raison, mais t'as fait lettres. Et puis là, d'un coup, c'est en faisant ça finalement. C'est pas un hasard, mais t'étais pas censé faire ça, puis là tu te dis, ouais, c'est là que je me suis trouvé.
Ouais, c'est vrai. Comme tu dis, c'est peut-être en se perdant.
Enfin, t'es d'accord avec ça de dire, en fait, t'étais dans le flou, tu t'es beaucoup perdu, et puis.
Oui.
C'est intéressant.
Ouais, c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être justement dans ces périodes de flou qu'il faut pas hésiter à toucher un peu à tout ou à s'ouvrir et puis à rester un peu en éveil et essayer de se faire des expériences à gauche, à droite pour voir un peu, pour tâter un peu le terrain, puis voir ce qui te convient le mieux.
Moi, je trouve ça magnifique que tu aies fait ça, justement, que tu aies essayé plein de choses. Et tu regrettes pas de ne pas être allé à l'aide du tout ou...
Non.
Ok. Non, mais tant mieux.
Non, je me suis toujours dit, je pense qu'un jour, peut-être que je le regretterai. Non, je regrette pas. J'arrive quand même à avoir un peu de pratique artistique à côté de mon job, donc... Je pense que je compense à ce niveau-là.
C'est quoi ta pratique artistique?
J'aime bien dessiner.
Ok.
Ouais, j'aime bien dessiner.
Tu fais de la peinture ou vraiment c'est plutôt des croquis, des choses comme ça?
Là, je fais un peu d'aquarelle en ce moment.
Ok.
Ouais.
Génial. J'imagine, tu me disais avant en off, je me disais peut-être que tu as eu plus de temps pour toi pendant le Covid, mais tu me disais que tu avais encore plus de travail, donc c'est pas là où tu as pu peindre davantage.
Non. Non, effectivement, mais je suis à 80%. Du coup.
Chouette.
J'arrive à me dégager un jour pour faire un peu autre chose que de l'archéologie et puis ouais, avoir une pratique artistique à côté, ouais.
Et comment tu le vois ça, justement, cette séparation entre le travail et le perso? T'arrives facilement,
Oui. Oui, j'arrive à faire la part des choses. Bon, en télétravail, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait du télétravail ouais, pendant le confinement, quand je bossais sur des rapports, et là, c'était un peu plus difficile. Mais sinon, non, en temps normal, j'arrive à faire la part des choses et puis à me dire de 8h à 17h, c'est le job. Et puis après, après stop. Même si j'aime beaucoup l'archéologie, plus d'archéologie jusqu'à demain matin.
Et t'arrives à ne pas y penser pendant la nuit?
Oui.
Ou des fois, tu vois un peu des bouts d'ossements comme ça dans tes rêves?
Non, non, ça va. Non, non, ça va.
Et justement, là, t'es en début de carrière, mais comment tu vois la suite? Est-ce que il y a des possibilités d'évolution, ou bien est-ce que tu te vois déjà toute ta vie à faire ce que tu fais maintenant, ou même tu te dis dans ta tête peut-être qu'en fait dans 5 ans j'aurai envie de vivre de l'aquarelle?
Non, je pense que je me vois en tout cas continuer longtemps dans cette voie. Non, tant que je pense que j'arrive à me garder un peu de temps pour moi et pour faire aussi autre chose à côté, parce que c'est vraiment le côté créatif, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, je pense. Si je devais faire que de la science à 100%, peut-être que je me sentirais plus oppressée, mais en tout cas là, je me vois continuer dans cette voie. En tout cas, pour un bon moment. Après, possibilité d'évolution, pourquoi pas essayer de me former ou de me former ouais davantage en anthropologie, je sais pas, sur des méthodes ou sur du mobilier même différent. À voir. C'est vrai que c'est un domaine qui reste quand même très large. Du coup, on peut se former en continu au cours du temps.
Mais il n'y a pas, par exemple, de devenir... Il ne faudrait pas devenir calife à la place du calife de l'archéologie.
Enfin, non.
Il y a cette possibilité-là, il y a des...
J'imagine. Ah oui, il y aurait la possibilité, oui, de... Bah après, si on passe dans le secteur cantonal, en archéologie cantonale... y a une certaine hiérarchie, il y a l'archéologue cantonal, ensuite il y a les archéologues. Mais non, j'ai pas cette volonté-là. Je dirais pas que c'est pas d'ambition, mais j'ai pas cette volonté-là, non.
Et comment tu vis justement? Est-ce que tu te penses ambitieuse, et à quel point l'ambition c'est important pour toi?
Oui, je pense que c'est important d'être ambitieux, parce que ça permet de rester toujours en éveil, de rester toujours à jour, au taquet. Je pense qu'il faut être ambitieux pour pouvoir s'épanouir, ou ne serait-ce que se sentir bien dans son job, et de se sentir à sa place dans son job.
Génial. Et j'avais quelques autres questions un peu plus, qui sont un peu plus générales, mais c'est pour, j'aimerais bien te les poser pour un peu plus comprendre, ton parcours, puis qui t'es. La première question, c'est, je me demandais, dans ton travail, la décision la plus difficile, la plus dure que t'aies eu à prendre.
Apprendre toute seule. Le genre de décision que je dois prendre, c'est par exemple quand je suis avec un machiniste, donc avec une pelle mécanique, et qui me dit est-ce que ça je peux faire sauter parce qu'il faut que j'avance plus vite. C'est ce genre de décision, tu vois, c'est est-ce que j'ai le droit de vraquer ce matériel archéologique parce que je dois continuer mon chantier. Après, généralement, nous, en amont, on l'a enregistré et tout, mais effectivement, ça te fait toujours un petit pincement au cœur quand tu sais que t'as passé un jour à nettoyer ce mur et puis que tout va être détruit en 3 secondes. Mais voilà, ouais, je dirais que c'est ce genre de décision difficile que j'ai à prendre.
Ah, je vois. Et des fois, il y a le machiniste, il te dit non, là, j'ai pas une bonne intuition, fais-le pas. Ou bien.
On a des machinistes un peu plus réticents que d'autres, ouais, ouais, okay. Ouais.
Ok, d'accord. Et moi, je voulais savoir aussi la personne, donc, de manière générale, dans ta vie, la personne ou l'expérience qui t'a fait le plus grandir.
Bah, je dirais, mais rien à voir du coup avec l'archéologie, qu'un de mes modèles, ce serait ma grand-maman, parce que j'étais très proche d'elle quand j'étais petite, et ça a toujours été une femme forte et très indépendante. Et ouais, ça a été un modèle pour moi, parce que je me suis dit que plus tard, je voulais être comme elle, je voulais réussir à faire les choses de moi-même, sans avoir à demander de l'aide aux gens. Ouais, je pense que c'est elle qui m'a fait le plus grandir, on va dire, ce type de relation.
Et la prochaine question, elle rebondit un peu sur la dernière, c'est quoi en fait le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Ça peut être dans ta vie, ça peut être par rapport à ta carrière, mais le conseil qui t'a fait grandir.
Bah, peut-être simplement fais-toi confiance ou crois en toi. Je sais que j'ai eu des moments durant lesquels je doutais un peu plus. Et on m'a dit, bah, faut se faire confiance, et tant que tu aimes ce que tu fais, dans le fond, y a pas de mauvaise expérience. Donc, ouais, peut-être juste simplement de s'écouter.
De s'écouter.
Ouais.
Trop bien. Et, je me demandais, moi, personnellement, est-ce que dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, est-ce que tu mets en place des rituels, des choses que tu fais le matin avant d'aller au travail ou quand tu reviens chez toi, que tu fais, et que c'est vraiment ton rituel qui te permet de, je sais pas, d'être en meilleure forme, de...
Bah, rituel, le matin, je me lève à des heures un peu improbables pour prendre le train. Du coup, je dirais que le matin, je suis un peu dans le flou et je fais tout en 15 minutes chrono et je pars de chez moi.
Ok, on a des matins similaires, alors.
Voilà. Mais du coup, je sais pas si on peut appeler ça un rituel. Ouais. Toutes mes affaires sont déjà prêtes et puis voilà, okay. Je réfléchis pas, j'y vais. Et le soir, ben, je rentre aussi à pas d'heure généralement. Mais j'aime bien, ouais, prendre du temps pour souffler, me dire ok, ma journée de job est passée et puis juste profiter. J'arrive pas à aller tout de suite à manger et puis aller au lit tout de suite. Je sais que j'ai besoin d'un temps pour faire complètement autre chose. Juste pour décrocher un peu, puis me dire que j'ai pas une routine métro, boulot, dodo.
C'est important pour toi de...
Oui.
Ouais.
Ouais, de pouvoir faire la part des choses et puis de souffler un peu.
Donc tu travailles quand même... t'as quand même des horaires assez étendus, du coup.
Oui. Bah, je fais généralement du 8h-17h, mais comme je travaille sur des chantiers qui sont pas toujours prêts, vu que c'est sur le canton de Vaud... bah généralement j'ai des trajets de 2 heures aller, 2 heures retour qui font que oui, c'est des grosses journées mais c'est un rythme à prendre.
Ah, mais j'imagine. Puis je pense au début c'était, est-ce que au début c'était, tu te sentais fatiguée, puis maintenant oui. T'as l'expérience, t'es
ouais, maintenant ça va,
tu vas, j'ai pris le rythme, une guerrière et t'as voilà. L'énergie est là, quoi.
Oui. J'essaye.
Et je me demandais, parce que t'as quand même un métier super spécialisé. Mm-hmm. Et je me demandais si t'enviais des compétences à d'autres personnes, ou des fois tu vois autour de toi, tu dis ah, oh, cette personne elle a ça et moi je l'ai pas.
Oui, clairement. Mais alors rien à voir avec l'archéologie, mais oui, ouais, il y a plein de fois où je me dis ça, je pense que je fonctionne un peu ouais, de manière passionnelle, passionnée, je sais pas. Et du coup, il y a plein de reprises où je me suis dit, ah bah ça, je le ferais, je l'aurais bien fait. Genre, je sais pas, l'autre jour, bah, j'ai fait une formation avec mon emploi actuel en maçonnerie, hein, ancienne. Mais du coup, bah, là, je me voyais bien faire un CFC en maçonnerie, tu vois, parce que, je sais pas, tout à coup, je me suis dit, ah mais en fait, c'est chouette. Ou fromagère aussi, tu vois, j'aurais bien voulu faire fromagère quand j'étais petite.
Génial.
Ouais, je sais pas. Ou ne serait-ce que tous les métiers dans le milieu artistique. Ouais. Je pense que je me... Ouais.
Mais est-ce que t'as, parmi tout ça, et les perspectives futures, quand tu regardes ton passé, est-ce que t'as en toi un rêve? Un rêve que t'adorerais réaliser?
Bah j'aimerais... Ouais, je sais pas, c'est dur. un rêve... Bah ce serait peut-être plus au niveau personnel. Ce serait qu'en parallèle à mes études, bah j'aimerais bien pouvoir me développer aussi personnellement, pouvoir faire ma petite famille, avoir un petit pied-à-terre ou pouvoir me faire une expérience à l'étranger peut-être aussi. Partir quelques années pour découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais, si j'arrive déjà à réaliser ça, je pense que ce serait chouette.
Génial. Bah merci de m'avoir partagé ton rêve. Et puis moi je te remercie pour ton temps. Merci pour ton énergie, c'était vraiment un plaisir à part ça d'avoir parlé avec toi. Je vois vraiment en toi beaucoup de passion.
Bah, merci.
Et je suis toujours très ouais, toujours dans l'émotion quand je vois autant de passion, ça m'anime moi-même. Je me dis ouais, faut aussi moi-même que j'aille de l'avant. Donc bah merci pour ça. Et peut-être pour terminer, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter du coup par rapport à est-ce que t'as une fouille en ce moment où faut qu'on t'amène de l'énergie quoi.
Ouais, une fouille qui commence la semaine prochaine où ouais. Potentiellement il y a des squelettes. Donc je veux bien ouais que tu.
Donc on peut te souhaiter. La découverte d'un maximum de squelettes ou juste te souhaiter
ouais.
Une bonne fouille.
Bonne fouille, ouais, c'est peut-être moins glauque.
Ouais, ok. Ok, bah, bonne fouille. Bonne fouille et puis, bah, merci beaucoup.
Merci à toi.